Et voilà.
T'as besoin de faire une longe en lèvres ?
Non, c'est bon. Ça va peut-être. Ça ne marche pas. Donc,
ça marche pas. Et vous avez essayé l'autre ?
Ouais. Ça donnera. C'est pas très grave. Tom ! On est bon ? Yala ? Erev Tov, les Koulam, les Isrour Seger Samer. Non, c'est ça, non ?
C'est des radous.
Quoi, c'est des radous ?
C'est pas pour mon fils ?
Ah, bah si, là, on n'est plus en Seger officiellement. Quoi ? Ou alors je me suis trompé, j'ai pas les mêmes enfants que vous ? Le Seger était fini à 7 ans.
Le Seger, pas doux.
Ah, tu dis un Seder, un Seger, pas doux. J'ai compris. Nounou. On revient dans notre étude du livre de Shemot et on est arrivé Perek Yud Chet. Perek Yud Chet, chapitre 18. Est-ce que vous voulez un livre, les filles ? Vous voulez pas ? Vous voulez... Si vous voulez, il y en a là-bas.
Attention, ils ne sont pas désinfectés.
Ils ne sont pas désinfectés. Le livre est dangereux par les temps qui courent. Faites très attention quand vous le touchez. Alcool gel sur chaque page. Bah, Kogel.
Non.
Ah, c'est pas Kogel. Non, mais ça marche, non, Kogel. C'est Olé le Tiatata. C'est 70% d'alcool, le reste, c'est de l'eau. Ça passe. Donc, on est donc Perek Yud Chet, verset Aleph. Perek Yud Chet, Pasuk Aleph. Il se trouve que c'est également le début de la paracha de Yitro. Et vous n'avez pas besoin d'autres informations ?
Pas 80.
Ça dépend des livres.
Ah non, moi c'est 215.
Ah, dans mon livre, c'est page 80.
Moi, c'est 215.
Mais chez toi, c'est quoi ?
215.
Tu vois ? On peut pacifier, on peut pacifier. Alors allons-y. Page 80, les filles. On est bon. Bon, alors la vérité, c'est qu'il y aura un petit peu de redite par rapport à ce qu'on a dit... Nous, dans notre étude mardi, parce qu'il se trouve que mardi, c'était Parashat Yitro, et donc on a étudié ensemble Parashat HaShavuah, mais là, on va rentrer dans une résolution beaucoup plus importante.
Il y en a qui n'étaient pas là.
Et il y en a qui n'étaient pas là. Mais les absents ont toujours tort. Non. Et le tort tue.
Ben oui.
Non, c'est pas ça. Tov, nounou. Je crois qu'on a eu le compte de blagues là pour la soirée. On peut y aller. Vaishma Yitro. Cohen, Midian, Choten, Moshe, et kol asher asa Elohim le Moshe ou le Israël amo, ki otzi Hashem et Israël min Mitzrayim. Donc, alors évidemment, les choses qui sont évidentes, connues, on va les redire très très rapidement. Yitro, c'est qui ? Yitro, il a plusieurs casquettes. Il est ici présenté comme étant Cohen Midian. On le sait déjà d'avant. Puisqu'on sait que lorsque Moshe arrive chez lui, on nous dit « Ou le Kohen Midian, Sheva Banon ». On sait qu'il est Kohen Midian. Il vient donc avec la casquette de Kohen Midian et également la casquette de Choten Moshe, c'est-à-dire le beau-père de Moshe. Beau-père, ça veut dire que concrètement, il est le père de sa femme, mais ça veut dire aussi concrètement dans l'histoire de Moshe qu'il est son rav, qu'il est son maître. Il a été son professeur durant 40 ans. C'est Yitro qui va apprendre à Moshe comment être derrière Shel Har Elohim. C'est-à-dire que lorsque Moshe va faire paître le troupeau de Yitro, à Chorev, là-bas, El Har Elohim Choreva, qui lui a appris à aller là-bas ? C'est Yitro. Je n'ai pas dit que c'est Yitro qui lui avait parlé du buisson. Yitro, il n'a pas eu le buisson. Mais c'est Yitro qui lui dit, là-bas, ça vaut le coup d'aller. Donc, Yitro, ce n'est pas n'importe qui. Il est le patron, le rave, le, si vous voulez, le Ava Amina, l'avis de départ de Moshe. Il était idolâtre, tout à fait. Pardon ? Il était non seulement idolâtre, mais en plus le chef des idolâtres de là-bas.
Comment ça peut être son nom rave ?
Parce qu'on va voir que l'idolâtrie de Yitro est très particulière. Ok ? On va y venir. Donc, ce fameux Yitro, on nous dit qu'il est Cohen Midian. Or, Midian, comme on l'a dit et redit et redit, c'est le fils d'Abraham. Midian, eh oui, Midian, je vous rappelle, c'est l'un des six enfants que Abraham va avoir avec Ketura. Après la mort de Sarah, Abraham se remarie avec une autre femme qui s'appelle Ketura. Nous disent nos sages que c'est Agar qui a fait Tchouva, l'homme échané. Avec Ketura, ils vont avoir six enfants qu'il va envoyer loin à l'est, sauf un des six, qui s'appelle Midian, qui reste plus ou moins dans la région. Midian étant plus ou moins au sud de l'Arabie Saoudite actuelle. Ok ? Donc, il est quand même beaucoup plus proche que ceux qui sont partis, Mamash, Kedma, El Eretz, Kedem. Donc, Midian, c'est pour Moshe la volonté de se retrouver avec la Torah d'Abraham. Donc, un rapport au divin qui est premier. D'accord ? Donc, c'est avec toutes ces casquettes-là que Yitro arrive. Alors, Yitro, c'est un petit peu compliqué parce que est-ce que Yitro et Midiani, c'est pas clair. C'est pas du tout évident que Yitro soit Midiani. Il est Cohen Midian, ça c'est sûr, mais c'est pas évident qu'il soit lui-même Midiani puisque, à un moment donné, on parle de ses descendants comme étant Akeini.
C'est-à-dire ?
Qui vient de Cain.
Ah, d'accord.
Donc, ce n'est pas du tout évident de savoir est-ce qu'il est vraiment de Yitro, enfin de Midian ou pas de Midian. Mais dans tous les cas, il a été adopté par Midian. Et il a lui-même adopté la Midianitude. D'accord ? Sachant tout cela, on peut dire maintenant que Shama Machou, Vaishma Yitro, Kohen Midian, et c'est ce qu'il a entendu qui le fait venir auprès des Bnei Israël.
Comment il peut être descendant de Caïn ? C'est-à-dire que déjà, on a tous
des
descendants de Caïn par
sa petite fille.
Par la, ouais.
La femme de Noir.
Oui.
D'accord.
Pas forcément.
Comment ça?
Il n'y avait pas que Caïn.
Non, c'est pas ça qu'il veut te dire. Il veut te dire qu'un des descendants de Caïn, c'est Naama, qui s'est marié avec Noir. C'est-à-dire, et donc, si on en suit le pshat de la Torah, eh bien, il ne reste plus, après que le déluge, que les enfants de Noach et donc de Naama. Donc, quelque part, on est tous les descendants de Caïn. Tu as tout à fait raison. Mais est-ce que je me revendique comme tel ou pas ?
Il faut savoir qu'on a en soi, chacun en soi, un peu de Caïn.
Zénachon. Mais est-ce que c'est ça que je mets en avant quand on me demande ?
Alors, quels sont les autres descendants de Caïn ?
Non, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi, tu as raison de ce que tu dis.
Caïni.
Non, mais tu comprends ce que je dis. Je suis d'accord avec toi qu'on est quelque part tous les descendants de Caïn. Mais la question est de savoir est-ce que c'est ça que tu mets en avant quand tu te présentes. Ça veut dire quelque chose aussi. D'accord ? Bekitsour, il a entendu parler d'un truc. Alors, on s'est déjà posé la question, on se la repose maintenant. Est-ce que cette paracha, elle intervient après le dévoilement au Mont Sinaï ou avant le dévoilement au Mont Sinaï? Chez les commentateurs, il y en a qui disent comme ci, il y en a qui disent comme ça. Et il y a des arguments pour dire ça, il y a des arguments pour dire ça. À la vérité, nous, ça nous intéresse moins parce que quel que soit l'avis des commentateurs, Akadosh Baruch Hu a décidé de mettre cette paracha avant Mahamad Arsinaï. C'est-à-dire que nous, quand on lit la Torah, on lit l'histoire de Yitro qui vient chez l'Ibn Israël avant de lire le Maaseh Mahamad Arsinaï. Donc, même si ça s'est passé chronologiquement après, dans le cas où c'est comme ça, la Torah veut que tu le lises avant. Ok ? Et donc, il faut se poser la question, si ça se passe avant, qu'est-ce qu'il a bien pu entendre pour qu'il vienne maintenant au devant des Béné Israël ? Rachid nous dit, il a entendu parler de deux événements majeurs de ces dernières semaines. L'un, c'est l'ouverture de la mer Rouge, qui n'était pas rouge, et l'autre, c'est Milchemet Amalek. Pourquoi ces deux événements-là ? Pourquoi on ne nous dit pas, il a entendu parler des 10 plaies ? Il a forcément entendu parler des 10 plaies. Je rappelle que d'après le Midrash, Yitro est intimement lié à l'Égypte. Puisque le Midrash nous raconte que l'un des trois conseillers de Pharaon, lorsque Moshe est encore un tout petit bébé, c'est Yitro. L'autre, c'est Yov, et le troisième, c'est Bilam. C'est-à-dire, donc, Yitro est quand même très lié à l'Égypte. Il a certainement encore des contacts, des groupes WhatsApp, Signal, L'Homme Chané, avec ses copains égyptiens.
Je crois qu'il était conseiller de Balak.
De Yitro ?
Non. Conseiller de...
Paro. Paro, de Paro. Maintenant, il est devenu quand même Midian. C'est vrai ? Donc, Yitro, il a forcément entendu parler de Esther Makot. Mais ça ne l'intéresse pas pour savoir s'il doit venir maintenant se lier à Israël ou pas. Parce que dans les Esther Makot, comme on l'a vu, nous sommes complètement passifs. Ce n'est qu'à partir de la traversée de la mer Rouge que nous commençons, parce qu'on a bien voulu marcher, à être actifs, que nous prenons une dimension de peuple et surtout que nous affranchissons des Égyptiens. Pourquoi ? Eh bien parce que les Égyptiens, qu'est-ce qui se passe après la mer Rouge ?
Ils sont tous noyés.
Vayar Israël et Mitzrayim met al sefat ayam. C'est-à-dire que tant que les Égyptiens sont encore là, on a du mal à se détacher de l'emprise.
On dit Égyptiens, on parle de l'armée, c'est ça ?
Nous. Chané, si maintenant l'Égypte n'a plus d'armée, elle peut être dangereuse pour moi.
Voilà.
C'est-à-dire, donc je ne peux me sentir libre véritablement de l'emprise égyptienne que lorsque je suis conscient que ça y est, ils ne pourront plus m'attaquer. C'est-à-dire ? Tu veux pas avancer un tout petit peu le truc ? L'image est très lointaine. Non, on est déjà un peuple en Égypte. On est un peuple depuis le début du livre de Shemot. Puisque Pharaon, à l'époque, nous appelle au tout début de Shemot. Il dit Yesh Am Bene Israël Ram Vasumimen. Donc on est déjà un peuple. Attention, on est Am, on n'est pas encore Goy. Quelle est la différence entre Am et Goy ? C'est-à-dire, Am, c'est un peuple, c'est-à-dire un groupe d'individus ensemble qui ont la même destinée collective. Goy, c'est une nation. C'est une souveraineté. D'accord ? Donc à partir du moment où, ça y est, on est libéré de l'emprise égyptienne, alors, ben, on peut se comporter comme un peuple. Mais quand est-ce qu'on va, pour la première fois, exercer notre identité de souverain, de nation ? C'est dans la guerre contre Amalek. Une nation, c'est celle qui fait la guerre. Que la guerre. C'est celle qui a des relations internationales. Ces relations peuvent être soit la diplomatie, la paix, ce que tu veux, ou la guerre.
C'est pas quand on a une terre ?
Que quoi ?
On est une nation ?
Non. On peut être souverain sans terre. La preuve, Am Israël sera une nation souveraine pendant 40 ans dans le désert. Une nation nomade souveraine. Là où ils seront, ils décideront d'alliances qu'ils peuvent faire avec d'autres, ils décideront de guerres qu'ils vont faire avec d'autres, et ainsi de suite.
Ils ne frappent pas la monnaie.
Ils ne frappent pas la monnaie pour une raison très simple, qui est... Non. Que la monnaie n'existe pas encore à ce moment-là. C'est-à-dire que l'argent existe, mais pas la monnaie.
Je ne sais pas, le
Mahatzit HaShekel,
on va dire...
Mahatzit HaShekel, ce n'est pas une pièce. Non, c'est... Mahatzit Shel Shekel. Shekel, c'est Mishkal. Et donc, on te dit, c'est la moitié de ce que pèse un Shekel. C'est combien ? Bekal HaGulgolet. Donc, c'est une mesure d'argent que tu dois donner au Beth Amikdash. À l'époque où on sera au Beth Amikdash, il y aura déjà des pièces. Donc on va adapter cette mesure d'argent à des pièces d'argent. Mais la notion de monnaie telle qu'on la connaît nous aujourd'hui, elle n'existe pas à l'époque de la sortie d'Égypte. Il y a de l'argent, de l'or, des pierres précieuses, il y a du troc, il y a une valeur aux métaux. Mais il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas de billet de banque avec l'effigie de Pharaon. Ok ? Ça va ? Donc Vaishma Yitro, c'est-à-dire qu'il a pris conscience que maintenant en Israël... Ben, véritablement était redevenu Am Israël, et donc il peut venir voir ce qui va s'y passer. Vaishma Yitro Kohen Midian Chotem Moshe et Kol Asher Asa Elohim le Moshe ou le Israël Amo, qui otsi Asher et Israël ou Mitzrayim. Quel est le problème pour le verset ? Dites-moi quel est le problème dans le verset. Il est facile à trouver. Qu'est-ce qu'il a entendu ? Tout ce que qui a fait quoi à qui ? Oui, alors, c'est à qui? C'est à Moshe. Mais qui a fait? Non, qui a fait? Dis-moi bien.
Elohim.
Et quand la chère a ça, Elohim, le Moshe, ou le Israël à mort, qui aussi? Hachem. Non, mais vite. Si c'est Elohim qui a fait, parce que Yitro, il comprend le dévoilement de Elohim, alors pourquoi est-ce qu'il vient dire qui aussi Hachem est Israël et Mitzrayim? Nous, comment est-ce qu'on comprend ça? Pas shoot. Regardez qu'est-ce qu'il y a marqué sous le mot Amo. Sur le mot Amo, il y a un ta'am de lecture. D'accord, c'est une espèce de fourchette. De fourchette à fondue. Quoi? C'est un truc comme ça avec dedans.
C'est pas un diapason?
Ça peut être un diapason, chacun ses références. Ça a l'air? Tu vois ce qu'il y a? J'appelle ça une fourchette à fondue. Tu peux appeler ça comme tu veux. Ça marque la fin, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle Emtsa Pasuk. Ça veut dire que ce qui a marqué après n'est pas forcément la continuité de ce qui a marqué avant. Des fois, oui, mais pas forcément. Ici, c'est l'explication de ce qui a marqué avant. C'est-à-dire, Yitro, ou Shama et Kol Asher Asa Elohim et Moshe, ou les Israël Amo. C'est du point de vue de Yitro. Maintenant, le narrateur parle au Bnei Israël en leur disant qui aussi Hashem est Israël et Mitzrayim. C'est-à-dire que pour du point de vue de Yitro, pour l'instant, c'est Elohim. De notre point de vue, on a déjà pris conscience de qui c'est Hachem. Ça ne va pas tarder, il va très vite comprendre que c'est Hachem qui est dans le jeu ici. Mais pour l'instant, quand il était là-bas à Midian, sa perception qu'il avait, c'était Elohim. Ok? Oui.
Un petit rappel à des différences entre Elohim et Hachem?
Non. Parce que je le ferai dans 5 minutes.
Ah.
C'est-à-dire, c'est volontaire. Oui, ויקח יתרו חותן משה ציפורה אשת משה אחר שילוחיה. Il a pris, il est parti tout seul, Yitro. Il vient avec Tzipora. Et bon, là, on va pas nous le dire tout de suite, mais on va nous le dire après. Vetchene banea shershem haechad gershom, ki amar ger haiti beeretz norchia, veshem haechad eliezer, ki Elohe avi beezri, vaatzileni mikherev paro. Donc, Yitro arrive avec Tzipora, sa fille, la femme de Moshe, et ses deux enfants à Moshe.
Quand on parle des enfants, ils n'étaient pas tout jeunes.
Ils n'étaient pas tout jeunes, finalement. Lama.
Quand ils sont nés à l'arrivée de Moshe.
Qui te dit?
T'as
pas l'information temporaire.
Il trouve qu'il avait sa fille à Moshe.
Tu sais pas quand? Mais tu sais pas quand? Alors c'est pour ça que je te dis ça. C'est ce que j'allais dire dans deux secondes. C'est-à-dire qu'on sait que Yitro, il a donné sa fille en mariage à Moshe. On ne sait pas quand. On ne sait pas à quel moment il a donné sa fille en mariage à Moshe. Combien de temps il l'a fait patienter? Ça, c'est la première inconnue.
Il a porté comme dans la classe.
Je ne sais pas. Première inconnue, on ne sait pas. Deuxième inconnue, on ne sait pas à combien de temps après leur mariage, ils ont eu des enfants. Je te rappelle que dans le livre de Bérégide, en général, les grands patrons du peuple, ils attendent longtemps avant d'avoir des enfants. Troisième inconnue, attends. Troisième inconnu, peut-être qu'ils en ont eu un vite et le deuxième beaucoup plus tard.
Apparemment, quand ils sont partis en Égypte, il est parti de sa femme et il l'a renvoyé avec les enfants.
Oh, mais ça, c'était pas il y a longtemps. Quand il part en Égypte, c'était il y a combien de temps? Il y a un an.
Ouais,
c'est un an, c'est pas grand-chose. Et là, je rebondis sur ce que tu dis. Dafka, là-bas, le Midrash va nous dire que c'est le moment où il va devoir faire la Brit Mila à son fils.
Pourquoi le Midrash qu'il a fait, c'est écrit
Beferouche. C'est Nafa, pourquoi le Midrash? T'as raison, c'est marqué Beferouche. Ah, le Midrash te raconte toute l'histoire, machin, t'as raison.
C'est le deuxième.
C'est le deuxième. Donc, le deuxième, a priori, il est plus jeune. Sauf que d'un autre côté, l'Erteda, peut-être qu'il ne lui a pas fait la Brit Mila, pas parce qu'il a oublié, mais parce qu'il était possède qu'il ne fallait pas lui faire. Et donc, peut-être qu'il est plus vieux. Mais qu'est-ce qu'on a beaucoup d'inconnus? Sur quel âge ont les enfants de Moshe?
Moi, j'ai un problème avec ta traduction de tout à l'heure.
Qu'est-ce que j'ai dit encore?
L'avenir avec ses enfants à Moshe. Et là, je vois pas qu'il y a écrit Benjamin Banal.
Non, il y a marqué Banéa.
Oui, t'as dit, c'est
Oui, non, bon, tu chipotes. Tu chipotes. Ce sont ses enfants à elle. Dans la mesure où on sait qu'elle est mariée avec Moshe, j'imagine que c'est les enfants de Moshe. Mais tu as raison, ce n'était pas textuellement marqué. Bon, en tout cas, c'est les enfants de Moshe et Tzipora, Gershom et Eliezer. Qu'est-ce que ça veut dire Gershom? Haïti Gershom. Qui? Hein? Tout de suite, les grands mots. J'étais un étranger là-bas. C'est où là-bas?
À Midian.
Hein? À Midian. À Midian? Ou en Égypte?
À
Midian.
Oui, mais au moment où Gershom naît à Midian, il ne se sent pas du tout comme un guerre à Midian.
Par son père.
C'est-à-dire?
Par son père, c'est Moshe.
J'ai rien compris.
Donc il a des.
C'est Moshe qui nomme ses enfants.
Oui.
Et il nomme son fils Gershom. Lama qui guerre à Yiti, moi à Moshe. La question c'est à quelle terre il fait référence. Je dis au moment où il habite à Midian et où il donne le nom de Gershom, il ne se sent pas du tout guerre à Midian. Mais parce qu'au contraire, on a dit qu'il avait adopté l'idée qu'il voulait être à Midian. On avait expliqué quand on a dit qu'il a fui à Midian, qu'il voulait s'y installer, qu'il était très bien à Midian. Il voulait faire comme Yaakov Avinu, c'est-à-dire créer un nouveau peuple parce qu'il avait rejeté et les Égyptiens et les Hébreux. Il a été vu comme un Ishmitzri. Mais est-ce que lui se voyait encore comme un Ishmitzri? On a vu que non.
Il n'a pas dit non.
Oui, mais ça, c'est l'un des endroits où c'est difficile pour nous de comprendre ce que Chazal veut nous dire. Pourquoi? Parce que à qui elles ont dit ça? Et où il était, Moshe, à ce moment-là? Il était encore au puits. Puisque c'est au moment où elles reviennent, elles disent Ishmitzri, Tsilano, Mina, Daroim, et Yitro leur dit: et quoi, vous l'avez laissé là-bas? Allez le chercher! Ce qui veut dire que Moshe, il n'a pas entendu quand on a dit Ishmitzri, Tsilano, Mina, Daroim. Et pourtant, de là, nos sages vont dire Bigla, Shelo, Oda, Be'arzo, Lo, Nikbar, Be'arzo. C'est-à-dire, donc ça veut dire, de là, on apprend qu'ils ont dû redire ça quand il est arrivé, et là, il n'a pas bronché. Mais peut-être qu'il n'a pas bronché parce qu'il avait peur, parce qu'il ne se sentait pas à l'aise, parce que. Le fait est qu'il a fui l'Égypte. Et ça, c'est une certitude. Donc, quand il dit « Ger Haïti Beretz Nochria », ça ne fait pas référence à Midian, ça fait référence à l'Égypte, puisqu'il a rejeté l'idéal de l'Égypte. Et le deuxième fait encore plus référence au premier.
Papa.
Oui.
Quand on dit « Je ne suis pas égyptien », est-ce que ça veut dire « Je suis de Midian »
Non, pour l'instant, quand il a dit, rappelez-vous, on a étudié ça ensemble, quand il a dit « je ne suis plus égyptien », il a accepté l'idée qu'il était hébreu. Le lendemain, il a rejeté également l'identité hébraïque. Donc pour l'instant, il est apatride, jusqu'à ce qu'il accepte et qu'il embrasse l'identité midianite. Et il faudra que 40 ans plus tard, Dieu lui dise « non, 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 tu redeviens hébreu ». Je dis simplement que donc lorsqu'il arrive à Midian et qu'il a son fils, la terre étrangère dans laquelle il se sentait finalement comme un étranger, c'était l'Égypte. Et le nom de son deuxième fils vient corroborer ce que je dis, puisqu'il appelle son deuxième fils Eliezer, et il dit « parce que Dieu m'a aidé et m'a sauvé de la chérève de Paro ». Donc il est directement, il relie ses deux enfants à l'Égypte. Ok ? Je ne vois pas où tu vois. Vachem Aechad Eliezer, qui l'aurait avi, Bezri, Vatsileni, Michelef Paro. Il fait quoi? Non, il fait référence à qui? À Eloé Avi, le dieu de
mon père, ça peut être.
Non, ça ne peut pas, c'est Amram. Son père, c'est Amram. Pourquoi? Parce que Chazal nous dit que lorsqu'il lui a parlé dans le buisson, il a pris la voix de son père Amram. C'est-à-dire qu'il sait que le Dieu qu'il a sauvé, c'est le Dieu d'Israël. Ça ne veut pas dire que moi, je me revendique comme étant Israël.
Oui, mais alors là, il a avec ses deux fils, on voit ses deux identités.
Non, ses deux fils montrent qu'il a rejeté l'Égypte. Il ne montre pas encore qu'il est hébreu, quoique.
Le premier, mais le deuxième, je ne comprends pas. J'ai l'impression que ça fait référence à son identité.
Ça fait surtout référence que Dieu l'a aidé à le sauver de l'épée de Pharaon. Mais tu as raison qu'il fait référence au Dieu de son père. mais il ne dit pas mon Dieu. Mais, cependant, il leur donne quand même des noms en hébreu, qui est la langue des Hébreux. Donc ça, oui, ça le rattache quand même à l'identité hébraïque. C'est-à-dire ויבוא יתרו חותן משה ובנה ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוהים. Bon, très bien, pas de problème, il arrive devant le campement des béné Israël. ויאמר אל משה, אני חותן לך יתרו בא אליך ואשתך ושני בני האימה. מה? Il y a plein de problèmes dans la phrase. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de problème ?
Quand Moshe ou Banab ? Non, c'est Banab de qui ?
De Moshe.
Ah ben c'est pas bien.
Ah non. Veishto.
Non ?
Quoi ? Banab, Veishto et Moshe ?
Quand Moshe ou Banab ? Veishto, c'est...
Ou Banab, Veishto, regardez ta amie, et Moshe. Ah, faut pas chipoter pour rien. Le verset d'avant, on t'a parlé qu'il a amené sa femme, ses deux enfants. On peut chipoter, mais quand ça vaut le coup de chipoter. Begitzo, là, on a des problèmes de grammaire dans le verset. Parce qu'on nous dit, Vayavo Yitro Choten, Vayomer El Moshe, Ani Choten Cha. Donc il parle à Moshe. Il dit, je suis ton beau-père. Bon, d'abord, oui, non, mais pas nous, on le sait, mais lui aussi, il le sait. Ma Sibou.
Non, mais c'est qu'il veut. Il veut
avant d'arriver.
D'accord, mais là c'est lui qui parle. Et il dit je suis ton beau-père.
Ouais,
non, là c'est je suis ton beau-père. Ouais. Donc c'est Yitro qui parle à Moshe. Ouais. D'accord, mais Moshe il le sait. Il connaît son beau-père. Quand il le voit arriver, il sait qui c'est.
Oui, mais quand on envoie un message, on est encore
pas. Toi tu dis c'est un messager qui est venu.
Oui. Il y a des soeurs mariées avec lui. C'est une question de savoir s'il est toujours marié. S'il est toujours son beau-père ou
s'il est... Non, mais je, pourquoi il ne s'est pas marié? Ah putain!
Parce qu'il a dit qu'il a
renvoyé. Il l'a dit, il lui a dit reste chez ton père, c'est dangereux de venir avec moi pour l'instant. C'est pas un divorce.
Bah, il n'a pas dit ça.
Shilouchea. Non, parce que ça nous dit qu'au début, non, parce qu'au début, quand il est parti en Égypte, il est parti avec elle. D'ailleurs, il y avait l'histoire qu'il a fait la brique Mila, machin. Comment ça se fait alors que tu ne la vois plus en Égypte après?
Elle a fait la brique Mila.
Oui, elle a
fait la brique
Mila.
Ça veut dire aussi.
Non. Là aussi, vous chipotez pour rien. Il l'a juste, lui dit, rentre chez papa, parce que ça va être dangereux de venir là où on va. Point. Et il la ramène, c'est tout. Maintenant, tu dis c'est un messager, il y a de fortes chances que tu aies raison. Pourquoi ? À cause du verset d'après. Le verset d'après nous dit, va y être c'est, Moshe, l'ikrat rotno. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore là. Nachon. Mais c'est pas ça mon problème. Le problème, c'est que le messager, quand il dit, Ani yitro chotencha, pas besoin. Ou tu dis Rotenkha et tu dis Yitro. Dans les deux cas, Moshe il sait que Yitro c'est son beau-père ou il sait que son beau-père c'est Yitro.
C'est ça qui me fait penser que...
Mais même, si le messager, si Yitro il envoie un messager qui dit Yitro arrive, Moshe il saura pas que c'est son beau-père.
Non, le messager va transmettre le message.
Et il dira quoi? Yitro ton beau-père arrive.
Tel que l'autre...
J'entends bien. Il lui dira donc quoi? Yitro ton beau-père arrive. C'est là que je pose la question. Ça n'aurait pas suffi de dire Yitro arrive ? Alors, je ne chipote pas parce que... Bah exactement, parce que ce qui est important, c'est de savoir que pas que Yitro, c'est son beau-père, ça on le sait, mais il vient de Madrega Shel Elionut. Yitro vient en tant que supérieur à Moshe. Je suis ton beau-père. En d'autres termes, tu me dois le kavod et je suis là et toi tu es là. J'ai été ton maître à Midian, je reprends le boulot.
Il n'y a pas seulement ça. Parce qu'au début du Pérec, on le présente comme il trouve que Midian est Rotten Moshe, et maintenant c'est seulement Rotten
Moshe. Ah bah oui, évidemment, puisqu'il s'est détaché de Midian, maintenant il arrive chez les Bnei Israël. Donc il a enlevé sa casquette de Cohen Midian, et il reste Rotten Moshe. Nara, tu as raison. Oui
Je pense que c'est une autre chose, c'est qu'il devait y avoir d'autres Yitro dans la région.
Possible, c'est possible. C'est pas Yitro lui, c'est Yitro l'autre.
Non, c'est un messager qui connaît.
Il n'y a pas Yitro de deux.
Nounou. Mais il y a un autre problème. Vayomer el Moshe, ani chotencha, yitro, ba elecha, veishtecha, ushne ba'ya ima. Pourquoi tu as besoin de me dire ça aussi dans le message? Ils disent nos sages parce que sinon il n'aurait pas accepté de le faire rentrer. Parce qu'il a très bien compris ce qu'il voulait faire Yitro. Parce que Moshe, il le connaît son beau-père. Et il a très bien compris ce que je suis en train de vous expliquer. Que Yitro, il est venu pour prendre le contrôle de Bnei Israël. C'est-à-dire, s'il se révèle comme étant le chef de Moshe, et que Moshe c'est le chef de Bnei Israël, ben, il devient le patron. Et à ce moment-là, il dit, non mais t'inquiète, je ne suis pas venu que moi. Je suis venu aussi avec ta femme, tes enfants. Maître.
La patronne.
La patronne. J'amène la vraie patronne. ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו, וישקלו, וישאלו איש לרעהו לשלום, ויבוא האוהלה.
אני
חוזר,
לא?
לא.
C'est tout à fait normal.
Je te rappelle que les mœurs de l'époque ne sont pas celles d'aujourd'hui. Et Baruch HaShem, ils avaient des mœurs beaucoup mieux, beaucoup plus, on va dire, droites, que nous aujourd'hui. C'est absolument pas tsanoua de raconter que Moshe a été enlacé et faire un gros bisou bien baveux à sa femme. D'où ça te regarde. Donc, c'est tout à fait normal, d'ailleurs, dans le concept de l'époque, que le chef de famille, le père qui arrive, c'est lui, l'alter ego. C'est lui avec qui on discute. Les histoires entre hommes et femmes ne sont absolument pas à regarder le monde. Donc c'est tout à fait normal qu'on ne nous dise pas qu'il a embrassé sa femme. « Oh, tu m'as manqué, chérie. » Alors que c'est sûr qu'il lui a dit ça.
J'aimerais savoir que tes enfants, ils courent vers leur père pour,
nous.
Pour l'embrasser.
Et c'est important que tu le saches ?
Non.
Non, en fait, c'est pas marqué. « Nevoa shoutzrecha ledorot nirteva »« Shelo utzrecha ledorot lo nirteva » Une prophétie qui sert les générations est marquée, celle qui ne sert pas les générations, elle n'est pas marquée. C'est-à-dire ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים על אודות ישראל את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם. Voilà. On se posait la question, quand est-ce qu'il va connaître Hashem? C'est parti. Moshe a dévoilé à Yitro Yud Kevarki. יפה. ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל אשר הצילו מיד מצרים. Yitro a été émerveillé. Mais c'est pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué Vayichad. Vas-y, Vayichad.
Se réjouir.
Hein, comment ça se traduit chez toi ?
On traduit Yitro se réjouit.
Se réjouit.
Bien que l'Éternel avait prodigué.
Il a fait. Exulté. Exulté. Hein. Il a fait, c'est beau. Hein. D'accord, mais en hébreu, ça vient de quoi ? Yachad, tu as raison. Ça vient donc de quel mot ? Yachad. Echad. Arshab, il a compris. Oh, Arshab, il a compris, Mazé Echad. Et la reine, il te dit, va yomer Yitro, Baruch Hashem. Il est le premier personnage du monde à dire Baruch Hashem. C'est quand même pas mal qu'il a fallu un non-juif pour dire Baruch Hashem. Après tout ce que Dieu il a fait pour nous, la personne qui a été capable de dire Baruch Hashem ? Ben non. Qui, comme le dit le proverbe en hébreu, Ein ba'alagan makir ba'alagan. Ou alors, dans le langage de la Gemara, Ein ba'alanes makir beniso. Quand tu es à l'intérieur de l'événement, tu n'arrives pas forcément à prendre conscience de la grandeur, te rendre compte de la grandeur de l'événement. Donc nous, on n'arrivait pas à. Mais lui, il vient de l'extérieur. Et tu dis, oh, Baruch Hashem. Ceci étant, il va quand même falloir être un tout petit peu plus clair dans l'histoire. Il y a en Israël deux styles de personnes. Il y a des personnes qui ont un chiffon sur la tête et il y a des personnes qui n'ont pas de chiffon sur la tête. Ben, on les appelle communément religieux et pas religieux. Ah oui, comment est-ce qu'on détermine si quelqu'un est Yirei Shamaim, c'est s'il a un morceau de chiffon sur la tête, et s'il n'est pas Yirei Shamaim, il n'a pas de chiffon sur la tête. C'est ce que les gens disent. C'est évidemment faux, mais bon. Dans le monde des porteurs de chiffons, un film kippa, en vrai. C'est pas un chiffon. Dans le monde des porteurs de kippa, de kippot, eh bien, on a tendance à entendre de leur bouche Baruch Hashem. Les gens qui ne portent pas de chiffon slash kippa, dès qu'ils veulent remercier Dieu, qu'est-ce qu'ils disent ? Toda la'el. Toda la'el. Quelle est la différence fondamentale entre Toda la'el et Baruch Hashem ? D'abord, celui qui dit Baruch Hashem, il ne dit pas Toda. C'est d'abord Rishon. D'abord Génie, Toda la'el, c'est on remercie un concept complètement théorique. Puisque elle, c'est la dimension transcendante du divin, c'est-à-dire la dimension qui est complètement abstraite. Alors que Hachem, c'est celui qui dialogue avec moi. Ze panim el panim, ze mishéou. A elle, ze mashéou, ve a mi, a yutkevav, ke ze mishéou. En d'autres termes, a elle, c'est un objet, ve yutkevav, ke c'est un sujet. Ok ? Donc lorsque tu viens dire Baruch Hashem, tu attends une rencontre, un dialogue. Alors quand tu dis Toda la'el, c'est la lit comme ça. Donc lui, il vient, il te dit Baruch Hashem. Baruch Hashem, asher itzil etchem miyad mitzrayim umiyad paro. Asher itzil et ha'am mitachat miyad mitzrayim. Et donc, maintenant, je peux enfin dire ma grande phrase. Ata yadati. כי גדול השם מכל האלוהים. כי בדבר הזה אשר זדו עליהם. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ata yadati, maintenant je sais, כי גדול השם מכל האלוהים. D'abord, comment il sait?
C'est pas le même Elohim.
C'est
pas le même Elohim que là-bas.
Qu'au début, si, d'Afkassi, mais justement, il va falloir qu'on...
Parce que ici, c'est Hol.
Non, c'est quoi, c'est Hol?
Ça veut dire que c'est les dieux.
Nous.
Et là-bas, c'est l'Okim, ce qu'on appelle le Melokim.
Aucune différence. Zéro différence.
Du point de vue du souffert, ça n'a pas de
différence. Quoi, si là, il écrit Elohim, et là, c'est écrit à Elohim?
Non, si Elohim, ça... Ça désigne le Dieu d'Israël.
Oui. J'entends bien ce que tu dis. Au niveau de, tu parles au niveau des halakhot de Sofer Stam. Bien sûr que ça a des différences à ce niveau-là, parce que toi, tu le sais. Toi, le juif, tu sais quelle est la différence quand ça, c'est marqué comme ça ou quand c'est marqué comme ça. Mais pour Yitro, est-ce que c'est la même chose ou c'est pas la même chose? C'est la même chose, mais tu verras que c'est très très loin de l'idée idolâtre qu'on se fait habituellement.
Moi, il a fait ce qu'il fait religion.
Attends, j'y arrive dans deux secondes à ce qu'il a fait. Tu as raison, deux secondes ? Oui ?
Moi, je pense que Nicolas Hulot, il ne faut pas le comprendre parmi tous les objets, mais parmi tous les attributs de Dieu, il comprend quel est le véritable attribut de Dieu.
Mais c'est quoi le véritable attribut de Dieu ?
C'est l'attribut de miséricorde.
Ah bon ? Et les autres ne sont pas bons ?
Avant, c'était le
même. Et c'est pas un vrai attribut de Dieu ?
Non, il
c'est pas un vrai attribut de Dieu ?
Non, il connaît Dieu.
Tu dis Dieu, il n'est pas mitatadin ? Dieu, il n'est pas Midat Adin ?
Si.
Ah, pourquoi tu me dis que ce n'est pas un vrai attribut ?
C'est un autre attribut.
Ah, c'est un autre, donc c'est pas, il n'y a pas un vrai info. Zrabotai, bon, c'est la vie. Venez, on essaie de comprendre. Il y a, d'abord, avant de savoir qui gadol Hashem, Mazé Mikol à Elohim.
Il les connaît tous.
Il les connaît tous. Nous dit le Midrash qu'il a testé, comme tu dis, toutes les avodot Zav. Il a fait toutes les religions,
il
toutes les Ramadazas.
Il a jamais vu ça.
À Valchinia. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête deux secondes sur Yitro. Vous vous rendez compte du truc ? Il a fait toutes les Ramadazas. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que chaque semaine, il changeait. Genre, une semaine, il a testé le christianisme, une semaine, l'islam, une semaine, le bouddhisme. Il a tenté, ouais, non, c'est bien, ouais, c'est pas mal, non, je passe à autre chose. Zé, Mehod. Mehod, Yaldouti. Yaldouti. C'est totalement enfantin de voir Yitro, et c'est très bien d'ailleurs que ma fille Ogan et Ankita Aleph, on lui a appris ça la semaine dernière, qu'il avait essayé toutes les idolâtries. Et il avait plein de psalim dans sa maison, parce que chaque semaine, il a essayé une autre. C'est Yafemeod Ankita Aleph, Ogan ou OCP. Mais à un moment donné, il faut grandir. Parce que, Bémet, vous trouvez ça intelligent? Ah, il les a tous testés, mais...
Ça arrive plusieurs à la fois, peut-être.
C'est pas qu'il les a tous testés, mais... C'est que Yitro, comme dit Srasal, il était au Ved et Kol Avodot Zarot Shebaolam Beyachad. Yitro, il avait une compréhension très profonde de la Ardout. Il comprenait que si déjà Dieu, alors c'est Koulam. C'est pas possible qu'il y ait ou celui-là ou celui-là. Parce qu'il comprenait très bien qu'il y avait du vrai là-dedans et du vrai là-dedans et du vrai là-dedans. Et donc si on veut atteindre ben, la vérité, il faut tout le monde. Parce que c'est quoi les dieux? C'est quoi les dieux? Les dieux, ce sont des forces. Mais des forces de quoi?
De la nature.
De la nature. Ce sont des personnifications des forces de la nature. Tout simplement. Et donc, Yitro, il comprend que le soleil, c'est Vataï, Giloui Hashem. Il ne sait pas nommer cela Giloui Shel HaKadosh Baruch Hu. Mais il comprend très bien que le soleil, c'est un dévoilement du divin. Mais il comprend aussi que le vent, c'est un dévoilement du divin. Et il comprend aussi que Anubis, c'est un dévoilement du divin. Et il comprend aussi que Baal, en Canaan, c'est aussi un dévoilement du divin. Et ainsi, il les fait toutes. Toutes les Avodot Zarot, il les fait en même temps pour arriver à cette dimension de Yahad. En français, on dira que Yitro, il a compris que pour lui, Elohim, Zerak a Elohim. C'est-à-dire pour qu'on puisse parler de Elohim, Yitro, il dit Zerak ha Elohim kulam beyachad. Ha Elohim kulam beyachad, ze Elohim. Pourquoi tu dis ça? Il a juste dit qui est le patron. Il n'a pas dit qu'il n'avait pas ses forces, toutes ces choses-là. Mais qui est le patron? Il n'a pas trouvé de réponse. C'était des Elohim, mais ce n'est pas le patron. Elohim, c'est quoi? C'est Dieu? Non. Elohim, dans le Tanakh, c'est une représentation totale d'un dévoilement du divin. C'est la raison pour laquelle dans la paracha de cette semaine, non pas de cette semaine que je vous raconte, dans la paracha de Kitetsé, on va te dire... Ouais, dans Kitetsé. Elohim Lotekalel. Vous savez, Elohim Lotekalel. Les juges. Les juges sont appelés Elohim. Pourquoi je vais jusque dans la paracha de Kitetsé? Je vous rappelle que Moshe, il a été appelé Elohim. Pourtant, il n'est pas Dieu, Moshe. Donc, il s'agit, oui, mais à ce moment-là, Moshe, c'est lui qui transmet la parole de Dieu. Allez. C'est mouchlat, c'est total.
Retournez à
Bereshit
avec
Bnei HaElohim. Et Bnei HaElohim, donc, ça veut dire que la notion de Elohim, c'est un dévoilement du divin. Ça, c'est Meshuach Her. C'est-à-dire, quand tu décides de servir le soleil, Zé Belo Beseder. Mais de dire que le soleil, c'est un représentant de Dieu, c'est Bessé d'Argamo.
Mais c'est pas Dieu.
Parce que toi, notre problème à nous, quand on parle en français, c'est que Dieu, on l'utilise pour tout. Le mot Dieu, c'est Yudke Vavke, c'est Gam Elokim, c'est Gam Shatka, ça marche pas.
C'est-à-dire que là où Abraham a rejeté la Vodazara comme n'étant pas Dieu, c'est parce que Yitro, il a essayé de faire un peu l'inverse.
Exactement, pas l'inverse. Il a dit, là où je suis d'accord avec Abraham, c'est que ça ne peut pas être ou ça, ou ça, ou ça. Abraham, il a dit, ça ne peut pas être ou ça, ou ça, ou ça. Ve'etzit salav ba'alabira. Et Dieu, il s'est révélé à lui. Dieu avec un grand D. Moi, je n'ai pas eu la chance que D majuscule point se révèle à moi. Donc, j'ai fait un mix. C'est-à-dire que Yitro, il vient et il dit, c'est quoi Dieu? C'est l'ensemble des forces de la nature. Exactement. Yitro est le fondateur du panthéisme de Spinoza. Spinoza n'a rien inventé, il a continué la vie de Yitro. Tout simplement. Ma taout, où est l'erreur tant de Spinoza que de Dieu, que de Yitro par rapport à la compréhension de Dieu. Quelle est la taout? C'est pas vrai de dire que l'ensemble des forces de ce monde c'est Dieu. Pourquoi on a excommunié Spinoza, si c'est vrai.
C'est le limité.
À quoi?
À la nature. La nature.
Au monde.
Alors que Dieu est infini.
Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Eliyahu Hanavi, sur le mont Carmel, va faire sa démonstration face au prophète de Baal, et que tout le monde va voir que c'est lui qui a la Shrina avec lui et pas les prophètes de Baal, tout le monde va dire quoi? Hachem ou à Elohim? Et non pas ce que Spinoza et Yitro pensaient, qu'à Elohim même Hachem.
Je pense qu'ils pensaient que Hachem c'était la résultante, alors qu'en fait c'est la source première.
C'est-à-dire que Hachem c'est Elohim plus d'autres choses.
C'est ça.
C'est-à-dire que toutes les forces de la nature, ça n'est pas égal à Yudke Vavke. Yudke Vavke comprend toutes les forces de la nature, mais il comprend aussi d'autres choses. En français, quand tu dis que Dieu c'est Elohim, ça veut dire que Dieu il n'est que émanant. C'est-à-dire qu'il n'est que dans le monde. Be'otche, Akadosh Baruch Hu, il est gamme transcendant. Il est gamme au-delà du monde.
Elle et Elohim, c'est pareil. Elle et
Elohim, non. Elohim, c'est Bifnim, elle, c'est Bachutz. Hein? Elohim, c'est Bifnim. Dans le monde, c'est les dévoilements des forces de ce monde. D'accord. Elle, c'est la notion abstraite.
Le concept.
Le concept. Ok. Et Yudke Bafke, c'est le dévoilement, le dialogue. D'accord. Donc là, il te dit, Arsham Yadati, qui gadol Hashem, c'est Mikol Elohim, Mikoach Kol Elohim. C'est pas, il n'est pas plus fort qu'eux. Et là, grâce à ma compréhension qui était erronée, de avant, Sacham, il me vient qui gagne la chaîne. Ok? Ata dati qui gagne la chaîne, Mikol Elohim, qui va d'avoir Azé, Asher, Zadou Alem. Vaikach Yitro, Choten Moshe, Ola, Uzvachim, l'Elohim. Je croyais que tu avais compris que c'était Hachem. Nous? Ken, Léat Léat. C'est-à-dire que Aïm Moutar, Lisboach l'Elohim. Pour l'instant, oui. À partir de Sefer Vayikra, l'eau. À partir de Vayikra, c'est-à-dire à partir du moment où il y aura eu la révélation en Sinaï, tous les korbanot, etc., seront raclachés. Ok? Mais là, on n'y est pas encore. Donc, comme on n'y est pas encore, on admet que le service. On ne sait pas encore servir Yud Kevav. Ok?
Ça veut dire quoi, Asher Zadou Alem?
Qui les a protégés. Ok? Qui s'est placé sur eux. D'accord? Veigar Yitro Choten Moshe, Ola Uzvachim Elohim, Veavo Aaron, Vechol Zikne Israël, Lechol Lechem, Im Choten Moshe, Lifne Elohim. Pourquoi est-ce que tout le monde est venu, mais d'abord, sont venus à Aaron, Vechol, Zikne, Israël. Parce que les Zikne, ils avaient peur de venir voir Yitro. Quand ils ont vu qu'Aaron, il vient, que les Zikénim, ils viennent, Pourquoi ils avaient peur? Parce qu'il s'agit d'un autre dirigeant qui n'est pas de chez nous. Et je pense qu'on peut les comprendre, ils ont leur dose de dirigeants extérieurs. C'est vrai?
Alors c'est comme des enfants, là.
Bah, complètement. On vient de sortir de 210 ans d'esclavage, tu ne vas pas t'attendre qu'il soit déjà...
Non, c'est pour ça.
Non, bien sûr. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vayemi Machorat. C'est bien, les retrouvailles sont bien passées, ils ont bien mangé. Vayemi Machorat, Vayashev Moshe Nishpot et Ta'am. Journée classique, vous me direz. Vayamod Ha'am al Moshe Mina Boker Ad Ave. Moshe, hein?
Il a jugé.
Il rendait la justice.
Il y avait des problèmes.
Est-ce qu'il y avait des problèmes?
Non, je vois pas quel problème.
Oh ben, t'as raison, il peut pas y avoir de problème entre deux juifs, déjà. Déjà, deux juifs. Déjà, on n'a même pas commencé à discuter, le début de la phrase, c'est déjà un problème. Deux juifs, et tu vas dire qu'il n'y a pas de problème entre deux juifs.
Non, mais là, il est...
Ah, donc il n'y a pas de problème que tu m'as pris ma tante. Que tu es rentré dans ma tente par erreur et tu as vu ma femme étant en train de s'habiller. Mais t'as pas honte. Ou alors, mais pas du tout. Ce scarabée en or, il est à moi. Ah ben non, c'est moi qui l'ai pris à mon ancien maître égyptien. C'est pas vrai d'avoir marqué ses initiales dessus. Non, c'est pas vrai, parce qu'en hiéroglyphe, ça veut dire aussi... il n'y a pas de problème. Ah là, il y a des problèmes. Bekitso, il rend la justice. Mais j'ai juste un problème. Moshe, il est meilleur que moi en rendage de justice. On est d'accord? Certainement. Disons que Moshe, chaque cas qui lui est soumis, 30 secondes, il a géré le truc. En 30 secondes, il a fait le tour, tic-tac, et il a rendu le verdict. C'est quoi? 10 secondes. Voilà. Un est large. 10 secondes, Moshe. Pas plus. Bon, il y a quand même besoin de 20 secondes pour que le plaignant dise sa plainte. 20 secondes pour que l'autre il défende. 10 secondes pour que Moshe rende la justice. Et 10 secondes pour qu'il sorte de la tente et qu'il y ait l'autre couple qui arrive. Allez, une minute par dossier.
Le problème, c'est qu'il y avait des étapes du métier.
Bah, disons que Moshe, il n'a pas besoin ni de manger, ni de dormir, ni d'aller aux toilettes. C'est-à-dire, Moshe, il siège 24 heures sur 24, disons. Donc, il peut régler un dossier par minute, il peut régler 60 dossiers par heure, il peut donc régler 600 dossiers par 10 heures, il peut régler également, donc ça veut dire 1200 dossiers par 20 heures, et là, on s'approche des 1500 dossiers en 24 heures. Un dossier étant, mettant en scène minimum deux personnes, il a réglé le problème de 3000 personnes par jour. Génial. On est combien? 600 000 sans compter les femmes et les enfants.
3 millions.
Hein, quelques millions.
Les femmes et les enfants, je comprends.
Ah bon, mais pourquoi pas? Les enfants, t'as raison. Mais les femmes, ça fait au moins 1 200 000 donc. Je peux t'assurer qu'il y avait plus que 3000 personnes qui avaient des problèmes. C'est évident. Vous êtes dans un monde, vous savez ce qui se passe dans les tribunaux aujourd'hui? Mais tous les jours, il y a des problèmes. Laisse tomber, c'est impossible que Moshe y rende la justice pour tout le peuple juif. Impossible complètement qu'il juge 3 millions de personnes tout seul, mi boker à derer, et que tout le monde fait la queue, t'imagines la queue?
Ou alors c'est par catégorie.
Ah ben non, il n'y a pas de catégorie pour l'instant.
Eh ben voilà.
Eh oui, monsieur, dame. Quoi, Moshe, il n'a pas pensé à un truc aussi évident que ce que Paro, je m'embrouille, que ce que Yitro va lui dire dans deux secondes, de faire des catégories.
Il a géré pendant 40 ans déjà.
Hein?
Il a appris à gérer.
Mais il a appris, mais quel Yitro? Il a appris pendant les 40 premières années de sa vie à être prince d'Égypte. Donc quoi? Il a fait Sciences Po, il a fait l'ENA, il a fait ce que tu veux. Oh, et non, mais tu sais pas que ça marchera jamais son histoire. Comment ça se fait qu'il fait quelque chose qui est voué à l'échec, et il le sait en plus. D'ailleurs, la preuve qu'il le sait, c'est que quand Yitro, il va lui dire qu'il faut faire ça, il lui dit « Ok, je fais ».
Est-ce qu'il n'y a pas la notion, on assiste que c'est le lendemain de l'arrivée de Yitro,
ouais,
que tout d'un coup, il y a cette affluence dans les tribunaux?
Jusqu'à présent, on marchait.
Pardon?
Jusqu'à présent, on marchait, on n'avait pas le temps de se poser pour rendre la justice. C'est la première fois qu'on est posé. Donc c'est normal que ça se passe que maintenant.
Non, mais ils ne disent pas que c'est parce qu'ils sont arrêtés.
Avant, on l'a dit.
Ouais, mais c'est Dafka le lendemain de l'arrivée des
Yitro. Non, il semble-t-il que c'est le moment où ils se sont posés pour la première fois. Donc maintenant, on peut en discuter. Donc comment ça se fait, Bémette, bonne Jérôlam, que Moshe, il n'ait pas compris un truc aussi évident que ce que n'importe qui aurait pu comprendre? Eh bien, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine.
Zagbo.
La semaine dernière, on avait eu, on a fini sans question, ben voilà.